dans le cadre des rendez-vous Gênes et Jetés, la MRC de la Haute-Yamaska vous propose les balados futés. Dans cet épisode, réparer, allonger la durée de vie de ses biens.
Dans notre discussion sur la consommation responsable du premier épisode, on a plusieurs fois abordé la réparabilité. Le fait qu'un objet soit réparable en fait un choix intéressant d'un point de vue éco-responsable. Donc, dans ce deuxième épisode, on poursuit notre réflexion sur ce sujet. On parle de réparation comme solution pour allonger la durée de vie d'un objet. C'était donc tout indiqué que je rencontre Annick Girard, la cofondatrice de Mon Atelier de quartier, un café réparateur éco-responsable situé à Montréal. Annick Girard a longtemps été chargée de projet dans divers organismes environnementaux avant d'ouvrir son café réparateur. Une rencontre vraiment inspirante.
Aujourd'hui, on est chez Mon Atelier de quartier, c'est super chaleureux, c'est super accueillant. Est-ce que vous pouvez nous présenter les lieux puis votre commerce?
Oui, avec plaisir. Donc, merci d'être ici. Alors, Mon Atelier, c'est vraiment un lieu où on peut venir réparer ses objets, mais aussi apprendre à faire des choses soi-même, un petit peu le « do it yourself » auquel on réfère.
Le faire soi-même.
Le faire soi-même en bon français, effectivement.
Faire
c'est ça. Puis il y a tout un volet bien-être aussi. Donc, il y a autant des cours de yoga que des cours de couture, comment apprendre la couture, comment apprendre à faire la couture. Mm-hmm. Mais il y a aussi un petit café zéro déchet qui est une de nos portes d'entrée. Donc, voilà, c'est un petit peu le lieu.
Et qu'est-ce qui vous a inspiré à ouvrir un commerce là, comme mon atelier?
En fait, plusieurs choses, là, mon Dieu. Moi, ça fait longtemps. En fait, j'ai travaillé chez Guitar. J'ai été responsable de tout ce qui est consommation responsable. Aussi, j'ai eu l'occasion de faire une étude sur l'obsolescence. J'ai effleuré aussi, j'ai épluché, analysé tout ce qui touchait à la réparation. Mm-hmm. Donc, c'est des choses, j'ai pu être en contact avec plein d'initiatives super intéressantes. Comme par exemple, ici, on a les réparotons d'Incertec, qui sont des éléments de réparation d'appareils électroniques. Il y a tout le réseau des Repair Café aussi, il y en a un à Montréal aussi qui existe, où on vient apprendre à réparer les choses soi-même. Donc, tout ce genre d'initiative-là, il y a la remise ici à Montréal qui est une bibliothèque d'outils.
Où on peut justement emprunter, louer des outils, comme on emprunte des livres. Là.
Exactement. Donc, toutes ces initiatives-là sont super intéressantes en ce sens que ça permet d'avoir une connexion avec ces objets, de mieux les comprendre. Quand on les comprend mieux, quand on est même capable de les réparer, on a tendance à les garder plus longtemps et en prendre soin. Donc, pour moi, c'est tout un espèce de catalyseur, là, si on veut, la réparation, pour arriver à être plus éco-responsable dans son quotidien, consommer moins aussi.
Un premier pas vers l'encontre d'autres changements d'habitude de vie. Mais vous avez quand même ouvert un café, là, vous auriez vraiment pu ouvrir, là, c'est à la mode ces temps-ci, ouvrir un café très instagrammable, où on prend des super belles photos de notre latte avec le latte art. Mais pour vous, est-ce que c'était... Pourquoi c'est un essentiel de mettre de l'avant ces pratiques éco-responsables-là dans votre commerce?
Bien, c'est vraiment le cœur de notre projet. Hein. C'est vraiment, on voulait...
Oui,
tout à fait. Nous, on voulait faire un projet qui faisait en sorte qu'il y avait un changement de comportement, une réduction de consommation. Donc, pour ce faire, on s'est dit, ça nous prend plusieurs portes d'entrée. Mm-hmm. Donc, un café, tout le monde aime prendre un café. Puis on a changé ça en petite épicerie avec des petits produits fins, mais on essaye le plus possible de tendre vers le zéro déchet. Donc, puis dans tout ce qu'on fait, mm-hmm. on a toujours un regard d'éco-responsabilité, d'empreinte environnementale la plus légère possible. Donc, c'est ça. Ça nous prenait un café, une porte d'entrée pour monsieur, madame, tout le monde, pour leur parler de notre projet. Ah, on a des ateliers chez nous. C'est ça, vous pouvez venir apprendre à réparer, à faire du pain, vous pouvez apprendre à réparer vos vêtements. Donc, on a une salle polyvalente pour ça. Il y a même dans cette salle-là, comme je disais tout à l'heure, on offre des cours de yoga parce que ça aussi, ça fait partie d'être bien puis d'être
éco-responsable. Vous avez une programmation complète, là. C'est pas juste un petit peu par-ci par-là, des ateliers. C'est organisé aussi, là.
Oui, tout à fait. C'est très planifié, très organisé. On a tout un système en place, une programmation de plusieurs activités à chaque semaine. Donc, c'est ça. Donc, on voulait vraiment trouver le plus de manières possibles d'attirer les gens vers nous. On a comme un troisième volet. Donc, j'ai parlé du café, j'ai parlé de la programmation, mais il y a aussi un troisième volet qui s'appelle l'établi. Mm-hmm. Donc, ça, c'est comme le garage qu'on n'a pas chez soi, les outils qu'on n'a pas à la maison. Donc, tout se retrouve sur place. Donc, on a les outils, on a des espaces de travail. On a aussi de l'expertise qui est là sur place. Des fois, on veut réparer un appareil, mais il nous manque une petite compétence, il nous manque un savoir. On a besoin d'aide, on manque de confiance, peu importe. Donc, c'est ce qu'on propose. L'établi, c'est la place où venir réparer, mais aussi faire des projets. Mais tous les outils sont sur place. L'idée, c'est vraiment de créer une communauté de pratique et de partager le savoir-faire, les outils, pour pas que chacun soit dans son coin avec ses outils, son garage, ses petites affaires. On sort du modèle individuel, on voulait faire quelque chose de collectif.
Justement, parlons-en plus précisément là, de ce qu'on peut venir chercher en tant que client, cliente, consommateur, consommatrice, puis juste en tant que citoyen, citoyenne au café. Vous avez parlé des ateliers que vous offrez. On va parler un petit peu plus tard aussi de tout l'aspect réparation, comment ça fonctionne. Mais justement, là, qu'est-ce que les gens viennent chercher quand ils viennent au café pour les ateliers? C'est pas juste du plaisir, là.
Ouais, non, ben je pense qu'ils viennent chercher une compétence qui est peut-être perdue, qu'on a perdue au fil du temps, qu'on ne retrouve plus. On travaille énormément sur des ordinateurs ou avec des écrans, avec la technologie. On est aussi dans une société de consommation où est-ce que le prêt à jeter existe énormément, on peut pas se le cacher. Donc les gens consomment, ils achètent, consomment et jettent. Donc on n'est pas dans une dynamique de réparation. Donc je pense qu'il faut ramener quelque chose qu'il faut ramener. Puis je pense qu'il y a quand même une belle clientèle qui est prête à ça et qui le souhaite, qui souhaite réparer, qui souhaite
faire qui est rendu là.
Oui, absolument. Ben ça, on le sent au café, on le voit très bien. Chaque fois qu'on, par exemple, on a un atelier sur apprendre à comprendre son iPhone, pour ne pas dire son téléphone intelligent. Son téléphone intelligent. Puis à chaque fois qu'on offre cet atelier-là, il est plein en 2 jours. Là, c'est une folie totale. Donc, tu sais, je pense que les gens vont tu sais, oui, on travaille sur ces appareils-là au quotidien, mais on ne les comprend pas. Donc, les gens ont quand même cette volonté-là à être plus... à être moins esclaves, là, si on veut.
Plus conscients de ce qu'on utilise.
Plus conscients, mais plus capables aussi, plus en moyens, en possession de ces moyens, à réparer, à bien comprendre, à bien utiliser, à entretenir pour faire durer. Donc, il y a des gens, pour répondre à votre question, qui veulent vraiment faire durer, qui sont vraiment prêts à apprendre à faire les choses eux-mêmes pour réduire leur empreinte environnementale. Ça, c'est un type de clientèle. Il y a des gens qui sont intéressés par justement apprendre des nouvelles choses. Tu sais, l'acquisition de connaissances, apprendre à coudre, se servir d'une machine à coudre, c'est quelque chose qu'on n'apprend plus à l'école.
C'est se réapproprier d'un savoir qu'on a perdu, justement.
Absolument. Tu sais, ce type de savoir-là, si on pense à la cordonnerie qui n'est plus enseignée, il y a plein de savoirs comme ça qui ne sont même plus enseignés, il n'y a plus de programmes qui existent.
Je cherche d'ailleurs un cordonnier.
Très activement. Il y en a dans le coin. Mais c'est ça, puis il faut dire aussi que d'apprendre à faire les choses soi-même et d'apprendre à réparer, les deux vont nous procurer un grand sentiment de satisfaction.
Une force.
Une fierté totale.
Annick Girard l'a abordé, il y a une réelle perte d'expertise. On ne sait plus vraiment comment réparer les choses. J'ai comme l'impression que la popularité du « do it yourself », du « faire soi-même » qu'on observe depuis quelques années, est peut-être un contrepoids à cette perte de savoir. Les cours d'économie familiale ne sont plus obligatoires, les métiers patrimoniaux sont délaissés. Est-ce qu'il ne faudrait pas que collectivement, on s'attarde à cet enjeu? Je lui ai posé la question.
Au-delà du individuel, est-ce que vous pensez qu'on devrait se pencher sur cette question-là, mais d'une perspective plus large? Donc, au niveau de la société, se pencher, on est en train de perdre l'expertise de réparation et de faire soi-même. Comment on pourrait réintégrer ça dans une société, dans une communauté?
Tout à fait. Bien, j'ai évoqué la perte de formation dans les métiers de réparation, qui est un gros enjeu. Il y a aussi ces apprentissages-là, souvent se font de père en fils ou de mère en fille. Oui. Ça va être des transferts de connaissances générationnelles. Puis ça aussi, ça se perd, malheureusement. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de l'emploi, au niveau des formations. Une grande expertise qui est en train de se perdre, puis c'est très, très, très dommageable. Ce qui est important à savoir, c'est que tous les métiers de la réparation, c'est des métiers de qualité. Souvent, ils sont très bien payés. C'est des métiers qui sont non délocalisables, contrairement à plein d'autres. il y a des bonnes conditions de vie, un bon salaire. C'est des métiers très intéressants. Puis qui, je pense qu'il y a toute une, il y a eu une perte de noblesse
peut-être,
associée à ça, mais qui revient en force. Là. T'sais, on comprend mieux de nos jours le potentiel du magasin de cordonnerie dans notre quartier. Parce que je donne cet exemple-là parce que c'est vraiment d'une tristesse absolue. Là. Il y a c'est en voie de dispersion, ce métier. Quand on regarde qu'est-ce qui se fait dans une cordonnerie, c'est beaucoup plus que de réparer des chaussures. Là. Donc, c'est ça, je pense qu'il y a vraiment un travail à se faire. Je pense qu'il y a quand même des acteurs qui s'intéressent aussi à ce phénomène là, de perte de connaissances au niveau des métiers de la réparation. Donc, il y a vraiment un travail. Je pense que les gouvernements
faut
doivent...
voir, peut-être.
Absolument. Même les gouvernements doivent aussi se mobiliser pour favoriser le maintien de cette formation-là, puis qu'on encourage les gens à aller vers ces métiers-là, tout comme on le fait en santé, là, pour tous les postes.
Ça reste des métiers traditionnels qui sont importants puis qui vont l'être encore. Là.
Absolument, absolument, absolument.
Justement, on parle de solutions. Hein. Vous faites partie de la solution pour le café. Vous offrez, on a parlé tantôt, vous offrez aussi la possibilité, au-delà d'apprendre à réparer, à faire soi-même, vous offrez la possibilité de réparer nos objets. Donc, quels sont les objets, justement, du quotidien qu'on pourrait réparer à l'établi?
Oui, donc ici, chez nous, on est quand même un petit atelier. On n'a pas de grosse machinerie industrielle. On peut faire de la micro-soudure versus des grosses soudures là, de métal. Donc, on est vraiment dans les petits appareils qui vont être réparables avec des outils standards et communs du quotidien.
Donc, que tout le monde peut utiliser aussi. Là.
Absolument. Ouais. Si on n'a rien qui est particulièrement spécialisé, on n'a pas de gros ateliers de bois non plus. T'sais, donc, c'est assez facile de venir ici occuper l'espace et venir avec un appareil. Donc, qu'est-ce qu'on peut réparer concrètement? Il y en a qui amènent leur grille-pain, il y en a qui vont amener une chaise avec une patte qui est cassée, il y en a qui vont amener, mon Dieu, une lampe avec la base de la lampe qui est brisée. Mm-hmm.
Pas obligé d'être électronique ou
l'électronique, c'est vraiment une spécialité à part. Okay. Je dirais que ça requiert quand même des connaissances très précises qui sortent de notre lot de compétences, là. Mais ce qu'on veut, comme j'ai dit, ce qu'on veut créer ici à mon atelier, c'est une communauté d'experts. Donc, des fois, nous, on n'est pas capable de le réparer, mais on a plein de gens autour de nous qui sont intéressés ou qui ont des connaissances, qui peuvent venir, qui veulent contribuer. C'est vraiment une communauté.
Qui agissent comme ressource un petit peu.
Absolument, c'est ça.
Qui peuvent référer peut-être ailleurs même. Tu sais, vous avez parlé de ce qui peut se réparer ici, mais à la base, est-ce que tout est réparable?
Non. Malheureusement, non. Comme je disais, tout ce qui est électronique, souvent, en fait, de plus en plus d'appareils vont se développer ou vont comme évoluer en ayant des composantes électroniques. Là. Donc, on pense à des frigos.
Oui, oui, oui. La laveuse qui change.
C'est ça, exactement. Puis ces composantes-là requièrent justement un professionnel qui connaît l'électronique. Puis ce n'est pas du tout le lot de tout le monde. C'est un autre type de formation. Donc, puis c'est le genre de choses qui n'est pas accessible à tout le monde.
Puis même des fois, on voudrait peut-être tenter nous-mêmes d'initier une certaine réparation, mais on n'est même pas capable d'ouvrir le...
Oui, tout à fait. Ben, j'ai parlé du grille-pain. Le grille-pain en est le meilleur exemple. Le grille-pain, souvent, on peut trouver un grille-pain à 20-30$. Donc, quand ça coûte ce prix-là, c'est que ça a été fait avec des matériaux qui sont tous collés ensemble. En fait, les appareils, souvent, ne sont pas faits pour être ouverts, ce qui fait en sorte que dès qu'on l'ouvre, les composantes qui sont collées ensemble vont se briser. Puis là, il n'y a plus grand-chose à faire. Donc, quand c'est trop de basse qualité, ça devient très difficile à réparer. Donc, il y a tout aussi dans la conception de l'appareil aussi. Ce n'est pas... Il y a beaucoup d'objets qui ne sont pas pensés ou conçus pour être réparés.
Puis, justement, mettons que... Moi, on prend l'exemple que vous avez dit. On a une cafetière. J'ai une cafetière. Récemment, j'ai d'ailleurs eu une cafetière à réparer. J'ai vérifié, puis je peux la réparer. Je décide de le faire moi-même, j'arrive à mon atelier. C'est quoi la suite en temps normal quand l'établi est ouvert? Comment ça fonctionne? Comment je m'y prends?
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, sur notre site Internet, il va y avoir une prise de rendez-vous. Donc, pour qu'on puisse justement accueillir les gens, leur faire visiter les lieux, leur montrer justement qu'il y a un espace couture, il y a un espace soudure, il y a un espace bricolage, il y a un autre espace où on peut comme aller déposer des projets qui sont en cours, des appareils qui sont en cours de réparation. On va tout leur faire une visite des lieux et qu'est-ce qui est, comment se servir de certains objets ou instruments, équipements, etc. Ensuite, une fois que ce rendez-vous-là est pris, les gens vont pouvoir choisir quel type d'abonnement. Donc, ça fonctionne avec un abonnement. Les gens vont pouvoir choisir un forfait avec un nombre d'heures. Ça va fonctionner vraiment par est-ce que moi, je veux venir une seule fois ou je veux venir 5 heures par mois ou j'aimerais ça avoir un forfait VIP illimité. Mais ça va être comme s'abonner à un gym, pour faire ça simple. Si on veut venir quand il y a des experts sur place, il va y avoir un calendrier avec des noms de personnes et avec leur expertise. Puis on va pouvoir savoir que, je sais pas, Claude, expert en menuiserie, est là le lundi de 18h à 21h.
Pour bénéficier là, de son savoir.
C'est ça, exactement. Exactement.
Puis est-ce qu'on a besoin d'être manuel ou de s'y connaître un peu avant de venir?
Il faut avoir une volonté. Je pense qu'il faut être prêt parce qu'on ne répare pas à la place des gens. C'est vraiment les gens viennent pour apprendre, pour comprendre leur appareil. On les accompagne. C'est eux qui vont manipuler, c'est eux qui vont faire ce qu'il y a à faire. Nous, on les accompagne. Donc, oui, je pense qu'il faut quand même avoir une base, être un peu manuel, ou du moins avoir cette volonté-là. Si on vient parce qu'on veut déposer un objet, puis on s'en
c'est
va...
Pas, c'est pas le but.
Ce n'est pas l'endroit. Là, c'est un service professionnel qu'on cherche. Ce n'est pas nous.
Puis, est-ce que, avant de s'y rendre, avant de réparer, est-ce qu'on doit avoir une idée du problème où on peut arriver à faire comme... ça marche pas, justement, est-ce que le bénévole qui est là, justement, Claude, est-ce qu'il peut nous aider pour dire, ben je pense que le problème se situe à tel endroit, ou faut vraiment déjà, moi, que, en tant que détentrice de la cafetière en question, je dois savoir où est mon problème?
Ben, c'est sûr que si vous êtes servi de votre cafetière, vous savez un peu qu'est-ce qui fonctionne pas. Normalement, tu sais, on sait, bon, c'est...
On peut avoir une idée.
C'est ça, ça coule pas bien, le café, ça goûte pas bien, ou bon, tu sais, c'est le mousseur. Tu sais, on peut savoir.
Mais j'ai pas besoin de... Est-ce que j'ai besoin de savoir que c'est la pompe que je dois réparer?
Non. Okay. Non, pas du tout, parce que c'est pas à la portée de tout le monde. Tu sais, faut fouiller. En fait, c'est notre rôle à nous de vous accompagner dans ça, puis de vous guider, puis de trouver des solutions. Puis aussi parce que on en aura réparé plein d'autres avant aussi, puis on pourra comme savoir un petit peu c'est quoi les bris les plus
nous
fréquents.
Aiguiller, là,
c'est ça, exactement. Puis même que nous, notre rôle, parfois, va être de vous dire « Ah, ben ça, vous devriez aller voir un professionnel. »
Ça nécessite vraiment ce service-là.
Exactement. À ce moment-là, on va orienter vers les services appropriés.
Ça peut dépasser ce qu'on peut faire par soi-même. Justement.
Tout à fait. Ce qui est normal, ouais.
C'est d'ailleurs ce que j'ai fait avec ma cafetière. Parce que oui, tout est vrai, je cherche une cordonnerie et j'avais une cafetière qui fonctionnait mal. Je m'étais informée et selon les informations que j'avais trouvées, le problème était la pompe qui devait être remplacée. Je l'ai donc amenée chez un spécialiste. Ça m'a coûté environ 30$ pour une estimation et le remplacement d'un joint d'étanchéité, et la pompe est encore bonne. Le réparateur m'a simplement dit de nettoyer ma cafetière plus régulièrement. Oups! J'avoue que j'étais peut-être pas très assidue sur cette tâche. Mais en effet, au-delà de la réparation, un bon entretien de nos biens allonge leur durée de vie.
Justement, à ceux là, qui pourraient dire que s'aventurer dans la réparation... ça leur fait peur, ou ceux qui diraient ben ça vaut pas la peine, c'est trop compliqué. Qu'est-ce que vous répondez? C'est quoi votre argument pour les convaincre du contraire?
Ben en fait, c'est qu'il faut, quand on a réparé notre j'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment important d'insister sur ça. C'est que quand on répare un appareil, on évite de le mettre aux poubelles puis d'en acheter un neuf. Ça évite tout le cycle de vie, de répéter tout le cycle de vie d'un nouvel appareil. C'est incroyable la différence au niveau de l'empreinte environnementale. C'est un gaspillage énorme.
Gaspillage d'argent peut-être aussi.
Gaspillage d'argent, tout à fait. Parce que les gens vont penser souvent aussi au service professionnel qui est assez coûteux parce que bon, juste prendre l'appareil, analyser ce qu'il y a à faire, ça prend un certain temps. Nous, on est comme un entre-deux. On permet on va plus aller vers un diagnostic de l'appareil et de savoir quelle est la prochaine bonne étape à prendre et on peut accompagner les gens dans cette prochaine étape-là. Puis ce qui fait en sorte qu'on est capable d'économiser là, souvent. Là. Donc, mm-hmm. Parce que les gens vont justement se lever les manches, mettre les mains dans... Tu sais, ils vont vraiment...
On évite le coût du service professionnel pour ce qui est accessible à le faire soi-même.
Oui, exactement. Donc oui, ça peut être une économie intéressante et ça amène une grande fierté encore une fois. C'est un plaisir fou. On dit, hormis le plaisir, mais le plaisir dans ça est majeur. Je pense qu'il est plus important que tout.
Justement, là, si nous, on est super enthousiastes par rapport à ça, mais qu'on n'a pas accès à un atelier de quartier ou on n'a pas accès à une bibliothèque d'outils, qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté pour peut-être s'initier à la réparation? Est-ce qu'il y a des sites qui existent? Est-ce qu'il y a des guides que vous recommandez, particulièrement des applications, etc.? Par où on peut passer? Là? Justement, votre café est peut-être la porte d'entrée, mais si on n'a pas de café, c'est quoi notre porte d'entrée?
Absolument. Mais il y a beaucoup de choses, en fait. Je dirais qu'il y a une page, un groupe sur Facebook qui s'appelle « Tout ce qui se répare ». Mm-hmm. Qui est assez intéressant, c'est une communauté de 35 000 personnes aujourd'hui qui justement sont des adeptes de réparation, puis on va avoir toutes sortes de réponses, puis bon après ça c'est sûr qu'il faut faire un tri dans ça, mm-hmm. c'est des médias sociaux, mais reste que c'est une première ressource très intéressante pour justement juste aussi lire qu'est-ce qui circule là, qu'est-ce qui est brisé, comment les gens fonctionnent, il y a des trucs qui sont quand même récurrents des fois qui reviennent, qui peuvent être très intéressants. Sinon, quand on a un problème de réparation, un autre truc très, très aidant, ce sont les tutoriels. Il y a des tutoriels sur Internet à n'en plus finir, très précis sur des appareils, le modèle, l'année, presque tout est sur Internet en termes de tutoriels. Puis là, quand on parle de tutoriels, évidemment, il faut le dire, là, c'est vraiment une vidéo où on peut voir la personne qui fait la réparation et qui l'explique. En même temps, on peut mettre sur pause, on peut le faire, c'est fabuleux. Mm-hmm. Une ressource incroyable.
En Yamaska, justement, là, on n'en a pas de ce genre de commerce-là ou de lieu, fait qu'on peut avoir accès aux médias sociaux et aux tutoriels, mais on a le cégep de Granby qui offre un café réparateur, mais c'est davantage événementiel plutôt que fixe et dans le fond, c'est pas là tout le temps. Et c'est aussi plus un service de consultation. Il n'y a pas de possibilité de réparer. C'est quand même un bon pas, mais on ne peut pas utiliser des outils. Si un entrepreneur ou une entrepreneur qui est à l'écoute en ce moment, puis qui vous inspirez, puis qui souhaite peut-être ouvrir un café réparateur, qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce que ça prend pour ouvrir un lieu comme ça?
Qu'est-ce que ça prend? Et dans notre cas, en fait, ça a pris comme quand même un certain temps, là, monter, arriver à vraiment comprendre qu'est-ce qu'on voulait faire. Donc, ça prend quand même une espèce de forme de patience, mais de bagage d'expérience aussi. On n'a pas 20 ans, on est tous proche de la cinquantaine, si on a quand même...
une vision.
Oui, une certaine vision. Je pense que ça prend de la curiosité parce que pour réparer, pour être entrepreneur, ça prend de la curiosité. Mm-hmm. On est allé voir tout ce qui se faisait en termes de réparation. On a presque tout visité. On est allé voir les gens de la remise. On est allé à Québec. Il y a la patente qui existe. On a rencontré, il y a un autre porteur de projet qui nous ressemble, qui s'appelle Les Affûtés, qu'on a rencontré. Donc, on connaît tout le monde qui fait de la réparation ou presque, le Beeper Café Montréal. On a fait... Donc, tout ça pour dire ça prend une curiosité. Je pense que c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se fait autour. Mm-hmm.
Qu'est-ce qui fonctionne,
prendre les bons coups, les mauvais coups. Puis aussi de faire ce qui est complémentaire. Là, on ne veut pas non plus nécessairement reproduire, mais on veut aussi avoir du plaisir dans ça. Donc, je pense qu'il faut...
Faut que ça soit attrayant.
Il faut que nous, on ait du plaisir dans ça. Donc, on s'est permis de modeler le projet à notre image. Comme par exemple, je disais tout à l'heure, on a un volet bien-être. C'est sûr que pour certaines personnes, réparer... et yoga, mais c'est quoi le rapport entre les deux? Mais pour nous, c'est l'aspect, l'éco-responsabilité, c'est l'équilibre, si on veut être éco-responsable, il faut aussi qu'on soit bien avec nous-mêmes, donc il y a un lien indissociable pour nous. Mais c'est correct que ça ne réponde pas à tout le monde, qu'il y en a qui aiment moins ce volet-là ou quoi que ce soit. Donc, ça prend ça.
Une unicité peut-être dans le projet.
Oui, je pense qu'il faut qu'on soit vraiment quand même bien... faut qu'on soit très confortable autour de... qu'on ait une mission commune, qu'on ait bien identifié ce qu'on voulait faire ensemble.
Est-ce que vous étiez toutes des experts de la réparation?
Pas du tout. En fait, on était très complémentaires aussi, mais ça, on s'en est rendu compte au fil du temps. Tu sais, des fois, on part avec des gens avec qui on a des atomes crochus et tout, puis là, on s'est rendu compte qu'au fil du temps, c'était une bonne chose. On était très complémentaires. Il y a deux personnes dans le projet qui sont des entrepreneurs dans l'âme, qui en série même, je dirais... Moi, je viens du milieu environnemental, j'ai été chargée de projet, je fais de la communication aussi. Mon autre collègue est en communication, mais vraiment, c'est son métier. Une autre personne qui est très habile au niveau de la nourriture, puis c'est, elle s'occupe du café, elle est très curieuse au niveau des nouveautés et tout. Donc, on a été très, très, très complémentaires. Puis c'est ça, il faut être flexible parce que c'est de l'entrepreneuriat. Je pense que justement, on l'a vu avec la pandémie.
Oui.
Mais je pense que, tu sais, peu importe la pandémie, il faut être flexible, être entrepreneur, partir une entreprise. Là, c'est des conseils un petit peu génériques, là, mais quand même, tu sais, ça s'applique très bien à la réparation. Parce que réparer quelque chose, on ouvre un appareil, on ne sait jamais ce qu'on va trouver.
C'est pas un canevas qui se répète, là, à chaque fois.
Du tout, exactement. Donc, c'est pour ça que je me permets de dire quelque chose de générique, mais qui est très, très, très propre à la réparation aussi, là. Donc, il faut être très ouvert à essayer des choses, explorer... s'informer, tu sais, il faut pas être maître de son expertise non plus.
Savoir bien s'entourer, peut-être.
Oui,
donc,
absolument.
Tout faire soi-même.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Est-ce que ce serait votre souhait, peut-être, de voir plusieurs petits cafés ou plusieurs petites bibliothèques d'ici ouvrir un petit peu partout au Québec, là, puis que votre modèle de mon atelier fasse des petits puis se reproduise? Est-ce que c'est envisageable?
Absolument, mais en fait, on a parti le projet avec cette idée-là en tête. On se disait, mon Dieu, même que ça devrait être un service public, que ça serait la ville qui devrait justement... avoir peut-être dans les bibliothèques de quartier aussi un endroit où on peut venir réparer. Ils ont déjà des imprimantes 3D dans certaines bibliothèques. Donc, ça pourrait comme être élargi, étoffé. Enfin, nous autres, on a décidé de faire une entreprise parce qu'on voulait aller assez à notre rythme. On voulait aller vite, puis on voulait pas que ça soit compliqué. En tout cas, c'est notre choix. On voulait avoir grande liberté dans notre manière de faire. Puis, on avait cette capacité-là de le faire. Mais le modèle entreprise pourrait très bien être un autre, ça pourrait être une coopérative, ça pourrait être un OBNL, on a longtemps réfléchi à notre statut, mais chose certaine, c'est qu'on pense que vraiment c'est un service de proximité et que oui, il devrait y en avoir dans chaque quartier, parce que les gens, quand ils veulent réparer, ils vont chercher autour de chez eux, ils vont chercher les services de proximité, puis
une question de communauté.
Tout à fait, tout à fait. Puis je pense que l'idée de devenir un lieu de rencontre, un lieu de partage d'expertise, ça passe par le lieu, le commerce de proximité.
J'ai vraiment apprécié ma rencontre avec Annick Gérard. Elle fait partie de la solution. Quand on répare, on génère moins de déchets. J'ai bon espoir de voir des concepts similaires s'implanter dans la région et partout au Québec.
Dans le prochain épisode des Balados Futés, jeter, surtout pas, bien gérer ses produits électroniques.